Neville se félicitait d'avoir levé l'interdit paternel. Épouser Alexandra avait été la meilleure initiative de sa vie. Aucassin s'était trompé en tout. Henri n'était pas tombé amoureux de sa femme uniquement pour sa beauté, et celle-ci n'avait fait que croître. À 48 ans, Alexandra éblouissait encore plus qu'à 20 ans. Sa bonne humeur perpétuelle se propageait à ceux qu'elle fréquentait, à commencer par lui. Sans elle, il aurait sombré dans une mélancolie dont il n'ignorait pas être pourvu. Il aimait son épouse, bien plus qu'au premier jour. Oreste et Electre avaient hérité de sa beauté. « Si j'avais tout réussi, comme mon mariage, je serais le plus heureux des hommes », pensait-il. Il n'était pas loin de l'être. Hélas, la fortune n'avait pas suivi. D'avoir été si tragiquement honnête dans la direction du richissime Ravenstein, il n'était pas devenu le millionnaire qu'un être moins scrupuleux serait devenu à sa place. Retraité depuis 3 ans, il avait eu beau restreindre son train de vie, il n'avait pas pu empêcher l'inéluctable. Il fallait vendre le château.
« Si seulement nous savions à qui, » disait-il.
En cette période de crise, presque tout ce que le Gotha comptait d'honnêtes gens vendait leur château. Les Quéténis avaient vendu Merlemont, les Nothombes vendaient le pont d'Oeil, etc. Neville espérait que le Pluvier connaîtrait l'honorable destin de Merlemont qui avait été racheté par une autre famille de la noblesse belge. Comme l'immense majorité des familles de ce milieu étaient apparentées, les Quéténis n'avaient pas eu l'impression de perdre leur fief. Mais encore fallait-il qu'une personne respectable veuille du Pluvier. Ce n'était pas gagné. Le Pluvier n'avait pour lui que sa beauté et sa grâce. Pour le reste, un regard suffisait à diagnostiquer ce qui n'allait pas. La toiture s'effondrait, la bâtisse respirait l'inconfort et la fragilité. Autant chercher à marier une jeune fille qui n'aurait été que ravissante. « Cela se négocie », songeait Neville pour se donner du courage. Hélas, il savait que cela ne dépendrait pas de son bon vouloir. Si le seul acheteur qui se présentait était un caïd de la mafia russe, il ne serait pas en position de faire le difficile. Il se rassurait en pensant qu'un obscur château perdu au fin fond des Ardennes belges ne risquait pas d'intéresser d'interlopes moscovites. Sa pire terreur demeurait que le Pluvier soit racheté par une chaîne de fast-food qui raserait les vieux murs et la forêt pour construire un restaurant, un parking et une aire de jeu à la gloire de Disney. Neville se réveillait parfois au milieu de la nuit, le corps inondé de sueur à cette idée. Son désarroi était alors si profond que pour en sortir, il imaginait la garden party du 4 octobre. Oui, la dernière fête qu'il donnerait au Pluvier serait magnifique. Elle aurait la déchirante splendeur d'un chant du cygne. Il ferait beau, comme toujours le premier dimanche d'octobre dans cette région. Les hêtres, auréolant les murs du château, arboreraient ce commencement de rousseur qui toucherait davantage qu'une jeunesse absolue. La lumière automnale sublimerait l'ineffable couleur coque de roche de la façade, celle que les acheteurs potentiels assassinaient toujours d'un expéditif « faudra repeindre » qui inspirait à Neville un désir de meurtre. Le mot revenait. « Lors de cette réception, vous allez tuer un invité », avait dit la voyante. « Cette prédiction me rappelle quelque chose », pensa Henri. Soudain, il se souvint d'un conte d'Oscar Wilde qui racontait une histoire similaire. La bibliothèque du Pluvier était si désordonnée qu'y retrouver un livre relevait du miracle. Neville préféra se rendre à la librairie du village. Sur le catalogue folio, il repéra le titre d'Oscar Wilde, « Le crime de Lord Arthur Saville ». Le libraire en possédait un exemplaire. De retour chez lui, Henri s'isola avec le livre qu'il dévora. Dans sa jeunesse, il avait lu avec hilarité. Il comprenait à présent la gravité de cette affaire. Sur le point d'épouser la belle Sibyl, dont il était éperdument amoureux, Lord Arthur Saville, lors d'une soirée à Londres, se fit lire les lignes de la main par un chiromancien renommé qui lui annonça qu'il allait commettre un crime. En proie au désespoir, Lord Arthur erra toute la nuit avant d'ajourner son mariage. Il lui fallait se débarrasser de la sale besogne avant d'unir son destin avec celle qu'il aimait. On ne racontera pas ici les péripéties de ce noble anglais, pris entre les exigences contraires du devoir, de l'étiquette et de l'amour, afin de préserver le plaisir de lecture des intéressés que l'on espère nombreux. Et dire que j'ai ri de ce pauvre Lord Arthur, songea Neville en refermant le livre. En plus, mon cas est mille fois pire que le sien. Lui apprend seulement qu'il va devoir tuer quelqu'un. Ce qui peut arriver à n'importe qui, par accident ou pour mille autres raisons très défendables. Moi, je vais tuer un invité pendant la réception que je donne. Pour avoir dirigé le Ravenstein durant 42 années, Henri possédait l'art de recevoir. Au cercle, ses fonctions consistaient surtout à organiser des cocktails. On se rendait au Ravenstein, même si l'on se souciait du golf comme d'une guigne. Donner rendez-vous au Ravenstein, c'était le comble du chic. Le restaurant du club avait grande réputation et l'atmosphère du bar dégageait un charme suranné. Mais le clou, c'était les jardins. Et Neville était passé maître dans la tenue si particulière des garden parties. À la fin de sa carrière, il avait calculé qu'il avait reçu 1000 personnes par mois. Pour cette raison, il était naturel qu'il ait développé une haute mythologie de l'invité. Au sein de l'espèce humaine, Henri considérait les invités comme les élus. L'invité était celui que l'on espérait et attendait chez soi depuis toujours, dont la venue était préparée avec une attention extrême. Il fallait préméditer les occasions de lui plaire et éviter ce qui pourrait lui être source du plus léger désagrément. Pour cette raison, il fallait le connaître, se renseigner à son sujet, sans pousser trop loin l'examen, de peur de témoigner d'une curiosité déplacée. S'il n'avait été question que de choix alimentaires ou de goûts particuliers, cette orchestration eût déjà été difficile. Mais l'essentiel demeurait la compagnie. Il fallait que les autres invités soient à l'unisson de l'invité. L'étude des compatibilités relevait de l'entomologie. Parfois, on pouvait croire que tel invité se réjouirait de la présence de tel autre et découvrir lors de la réception qu'il se haïssait. Soit que ce sentiment se soit brusquement révélé, soit que l'on ait manqué un épisode dans leur relation, ce qui constituait en soi une faute. Tout cela apparentait l'invité à une sorte de messie. Le culte qui lui était dû s'avérait autrement compliqué que celui réservé au Christ. Si les commandements de ce dernier étaient relativement clairs, ceux de l'invité échappaient toujours à l'hôte le plus scrupuleux, sans faire de lui un juge plus indulgent en cas de manquement. Si vous disiez innocemment « Cher ami, avez-vous lu le dernier roman de Modiano ?» Il pouvait vous répondre « Voyons, combien de fois vous ai-je répété que je ne lis jamais de roman ?» Vous vous étiez alors rendu coupable d'oubli de conversations antérieures. La sanction, si ce genre d'impair se produisait trop souvent, était alors imminente. L'invité donnait des signes de déplaisir. Il n'appréciait qu'à demi votre réception et peut-être même votre personne. Vous n'aviez pas assez bien préparé sa venue, ce manque de tact pouvait vous être fatal et vous pouviez vous estimer heureux s'il acceptait une nouvelle invitation. Encore quelques fautes de cette espèce, et vous recevriez le terrible carton « Le baron F de C vous remercie vivement pour votre aimable invitation. Hélas, un engagement antérieur ne lui permet pas d'accepter. » Et vous apprendriez que le soir où vous aviez l'intention de le recevoir, le baron avait accepté une invitation qui lui était arrivée après la vôtre. Henri trouvait choquant que l'on puisse parler d'hôte de marque. Cet horrible pléonasme laissait supposer qu'un invité aurait pu bénéficier d'un moindre statut. Bien sûr, il savait que l'on ne reçoit pas le roi comme on reçoit ses amis d'enfance. Pour autant, il accueillait chacun avec les égards dus aux satrapes de l'Antiquité. Par bonheur, tant d'efforts n'avaient pas été vains. Neville était passé maître dans l'art de rendre ses invités heureux. Son meilleur professeur en la matière avait été le roi Baudouin, qu'il avait reçu au Ravenstein au début des années 80. Pendant cette soirée mémorable, il avait intensément observé le comportement du roi. Celui-ci s'adressait à chaque personne comme s'il s'agissait de l'être qu'il espérait rencontrer depuis toujours. Il buvait ses paroles avec l'attention la plus fervente qui se puisse concevoir. Neville fut bouleversé par une aussi noble déférence et se promit de n'avoir jamais d'autre inspirateur, non qu'il se crût capable de l'égaler, mais parce qu'il lui avait été donné d'entrevoir le Graal de l'entre-gen. Dès lors, la prédiction de Rosalba Portenduère équivalait pour lui à l'anéantissement de sa foi et de son art. Autant avertir un chef cuisinier qu'à sa prochaine prestation importante, il allait rater le plat qu'il avait élevé au rang de légende. Pire, il allait servir un mets empoisonné qui tuerait la star de la critique gastronomique. Si l'un de ses amis s'était vu adresser une prophétie semblable et l'avait racontée à Henri, celui-ci aurait éclaté de rire et lui aurait dit, avec la dernière conviction de ne pas croire à ces histoires de bonnes femmes. Malheureusement, il était comme presque tout le monde. Il ne croyait les prédictions que si elles le concernaient. Même le sceptique le plus cartésien croit son horoscope.